Jésus en nous l'espérance de la gloire. Cela signifie qu'il est possible pour chacun d'entre nous ici de pratiquer en creusant jusqu'à ce qu'on trouve le roc qu'est Jésus-Christ en nous. Il est le rocher, nous dit la parole de Dieu, sur lequel on s'appuie. La terre frêle, c'est la chair. C'est les frustrations, les mauvaises réactions qui arrivent à nous tous. Mais si on creuse et qu'on s'efforce de pratiquer la parole de Dieu, on va finir par toucher le roc. Et quand tu touches le roc, l'eau jaillit. L'eau de la vie jaillit.
Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Ça va? Est-ce que ça va? Alors ce matin, j'aimerais te dire ceci. Si tu as déjà été, peut-être une fois dans ta vie, frustré par ton mari si tu es une femme. Si tu as déjà été, peut-être, une fois dans ta vie, frustré par ta femme si tu as un mari. Si tu as déjà été, peut-être une fois, frustré par tes enfants, si tu es parent. Bref, si tu as déjà été une fois frustré dans ta vie, ce message te concerne. Et je me demande combien, ici présents, n'ont jamais été frustrés. Si tu n'as jamais été frustré dans ta vie, au moins une fois, lève la main à prier pour le mensonge. Parce que si tu es humain comme tout le monde, à mon avis, tu as déjà été frustré par quelqu'un, frustré par une situation, peut-être frustré par ton patron, frustré par tes collègues, ou tu as toi-même frustré sûrement des personnes. Alors, ce message est pour toi ce matin. Le thème que nous allons voir ce matin s'intitule « Vaincre la frustration ». Vaincre la frustration. J'ai partagé ce message vendredi et plusieurs ont été vraiment bénis et délivrés de la frustration, vraiment. Certains ont réellement vécu un changement en profondeur et je crois que ça va être pareil ce matin. Je n'ai pas partagé hier soir, puisque hier soir le Seigneur est conduit différemment. Le Seigneur voulait guérir et voulait vraiment toucher par son esprit, par sa puissance. Les frères et sœurs dans ce lieu. Mais regarde ce matin ton voisin, dis-lui, tu peux vaincre la frustration. Vous savez, lorsqu'on est frustré, on est agacé, on est irrité, et ça arrive à tout le monde, d'accord? Être frustré de manière momentanée, c'est normal. Jésus lui-même, à un moment donné, était frustré avec ses disciples, et il dit, mais jusqu'à quand est-ce que je vais rester avec vous? Donc la frustration, lorsqu'elle est juste temporaire et momentanée, cool, c'est normal. Mais lorsque la frustration reste et perdure, et tu te sens sous l'oppression de cette frustration en permanence, là, il y a un souci. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Parce que nous sommes enfants de Dieu, non pas pour être frustrés tout le temps, mais pour que la paix de Christ, Christ lui-même, le prince de la paix, puisse habiter dans nos cœurs. Vous savez, la frustration provient de l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'on est frustré parce qu'on est insatisfait d'une situation ou de quelqu'un, ou qu'on est victime de la déception, voire d'une trahison. La frustration arrive lorsqu'on se sent privé d'un avantage qu'on pensait ou qu'on croyait pouvoir disposer. Alors on est frustré. On est frustré, peut-être tu attendais une promotion dans ton travail, tu as travaillé dur pour ça, et c'est le nouveau qui est arrivé 10 années après toi qui a la promotion. Et tu sais en plus qu'il fait un travail moins difficile ou il est moins acharné au travail que toi. Et ça, ça peut créer une frustration parce que ça fait naître de l'insatisfaction. Ou lorsqu'imagine Dieu bénit quelqu'un que tu n'apprécies pas. Ça peut aussi te frustrer. Ou pire, lorsque ton ennemi est béni, ça peut aussi te frustrer. Et pourtant, il nous faut être délivrés de ce sentiment de frustration. Et je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu où on voit un homme frustré parce que son petit frère qui était perdu revient. Et lui, le grand frère, il est frustré par la réaction de son père. On va voir ensemble la parabole du fils prodigue comme on la connaît, mais ce n'est pas écrit la parabole du fils prodigue dans les Écritures. Ça parle de l'histoire des deux fils qui avaient surtout un père extraordinaire. Et dans Luc 15, à partir du verset 11, il est écrit... Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Là déjà, on voit la bonté du père. Il a deux fils. Le plus jeune dit, « Donne-moi mon héritage. » Et le père donne aux deux leur part d'héritage, au plus jeune comme au fils âgé. Et nous connaissons l'histoire, le plus jeune récupère l'héritage, le dilapide avec une vie de débauche, une vie immorale avec les prostituées. Il mange même le repas des cochons, il galère, en lui-même il se dit « Bref, les serviteurs à la maison de mon père sont bien mieux que moi, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce tas de boue ?» Et là, il décide de repartir, voir son papa. Et lorsqu'il arrive, son père ne lui fait pas un reproche. Son père ne lui dit pas, « Où est passé mon héritage? Tu l'as gaspillé. La prochaine fois, je ne te donnerai plus. Apprends tes leçons. » Le père ne lui fait pas un reproche. Et il prend le fils dans ses bras et il dit à ses serviteurs, « Tuez le veau gras. Donnez-lui une tunique, une robe neuve, tunique neuve, mettez l'anneau d'or à sa main. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. On va faire la fête, appeler les voisins, les amis. Ouh ! Le dîner dansant, c'est là. On va faire la fête. » Et pendant ce temps, verset 25, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. » Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis, bec à linette. C'est pas écrit ça. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Et le père répond au verset 31. « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Donc, on aurait dû appeler cette parabole la parabole du père extraordinairement bon. Au lieu de la connaître, c'est la parabole du fils prodigue. Parce que Jésus veut mettre l'emphase ici sur le père extraordinaire. Et deux fils à l'ouest. Pas un, deux. Deux fils à côté de la plaque. Celui qui part et celui qui reste. Ici, on voit le grand frère, le fils aîné, il est victime de la frustration. Il est frustré. Il n'est pas content. Son jeune frère arrive, revient, et au lieu de se réjouir parce que son frère aurait pu être retrouvé mort, tué par les bêtes sauvages ou tué par des bandits, je ne sais pas. Il est frustré parce que son père fait une fête pour son frère qui est revenu. Et là, sa frustration intérieure se manifeste à l'extérieur. Il n'a pas dealé avec cette frustration. Et il y a parfois des frustrations, nous, qui sont bien profondes, mais que certaines situations vont venir révéler et manifester la frustration intérieure. Le frère est là et on voit en réalité qu'il est jaloux. On voit qu'il est là et qu'il dit « Mais moi, je te sers depuis tant et tant d'années. Je ne t'ai jamais désobéi. » Et un boucané, on va pas donner à moi. Et tu m'as pas tué un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Et il est frustré. Il est vraiment pas content. Ce frère-là avait vraiment un problème. Il n'avait pas compris ô combien le père l'aimait. Il se voyait plus comme un serviteur que comme un fils. Le père lui dit, mais mon fils, je suis toujours avec toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et lui dit, je t'ai servi. Et il pensait qu'il pouvait acheter l'amour du père par ses performances, par son travail acharné, que là, le père allait peut-être lui donner en récompense quelque chose. Il n'avait pas réussi à comprendre que le père l'aimait même s'il ne performait pas, même s'il ne servait pas, même s'il aurait fait des erreurs comme son frère. Et du coup, il pensait qu'il méritait plus. Il était dans l'erreur. Et il est frustré. Cela me fait penser, souvent l'Église avec un grand E, les enfants de Dieu, avec un grand E aussi, qui sont dans la maison, qui servent depuis longtemps, qui prient, qui vient en réunion de prière, qui vient en célébration, s'inscrit à l'école biblique, et gloire à Dieu pour tout ça, mais qui sont frustrés. Des enfants de Dieu qui sont peut-être à l'église depuis des années, qui servent et qui voient un nouveau débarquer, le feu de Dieu dans sa vie. Et en un instant, quelques mois, ce nouveau-là manifeste la puissance des signes, des miracles, des prodiges, marche dans la faveur de Dieu, marche dans la paix, marche dans la joie. Et voilà l'enfant de Dieu qui a des années, qui est là, qui regarde ce jeune frère. Et là, il est frustré. Et il se dit, mais moi, ça fait tant d'années que je suis fidèle et que je sers. Et j'ai l'impression que mon couple est toujours dans la galère. Et je sers. Et mes finances sont toujours au plus bas. Et je sers. Et j'ai une frustration en moi. Et je n'arrive pas à apprécier la vie chrétienne que Jésus est venu m'offrir. Ce genre de frustration-là, il faut que nous puissions être totalement délivrés. Alors ma question pour toi ce matin, c'est es-tu frustré par ta vie spirituelle? Ne réponds pas sans toi et Dieu. Mais es-tu frustré par ta vie d'aujourd'hui? La seule chose bonne, lorsqu'on est frustré, c'est qu'on est toujours frustré par quelque chose qui nous intéresse, ou en quelque chose où on est engagé dedans. On n'est pas frustré si quelque chose ne nous intéresse pas, si on n'a pas un intérêt dedans. C'est la seule chose qui peut paraître bonne dans la frustration. Si ton marmaille à toi te désobéit, tu peux être frustré. Mais parfois, si le marmaille de ton voisin désobéit à ses parents, tes voisins, tu seras moins frustré. Oui ou non? Donc la bonne chose dans la frustration, c'est que cela prouve qu'on a un intérêt dedans. Mais il y a juste ça de bon. Après, il faut qu'on arrive à comprendre que lorsque Jésus est frustré avec les disciples, par exemple, c'est parce qu'il investit en eux. Il a dit, allez, je vous donne l'autorité pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Et à un moment donné, ils n'arrivent pas à chasser un démon dans un enfant. Et là, il est frustré parce qu'il s'est investi en eux. Il n'est pas frustré parce qu'il est en colère contre eux, il est frustré qu'il n'arrive pas à découvrir l'identité qu'ils ont en lui et la puissance et l'héritage qu'il leur a donné. Il est frustré parce qu'il n'arrive pas à jouir de la pleine puissance et bénédiction qu'il a pour eux. Et Dieu veut te bénir ce matin. Il veut que tu puisses vaincre la frustration pour que nous puissions avoir une vie spirituelle qui ne soit pas frustrée, mais une vie spirituelle qui puisse faire la différence. Donc ce matin, on va voir trois points pour savoir comment faire pour vaincre la frustration. Comment faire pour qu'on ne soit pas victime ni les proies de la frustration. Alors regarde ton voisin et dis-lui, es-tu prêt? Jacques 1, verset 22 nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux et non pas frustré. Le premier point qui va nous aider à réellement ne pas être victime en permanence de la frustration, c'est que nous devons appliquer la parole de Dieu. Les premières raisons de la frustration, c'est la connaissance sans l'application. C'est la connaissance sans l'application. Aujourd'hui, l'Église avec un grand E, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements et de prédications. Dans la semaine, le week-end, sur Internet, iPod. Le problème n'est pas le manque de parole. Le problème est le manque de pratique de la parole. Donc souvent, les enfants de Dieu peuvent être frustrés parce qu'ils connaissent beaucoup de choses avec la tête, mais ne pratiquent pas beaucoup. Et ça, c'est un danger. Cela peut emmener réellement la frustration. Je vous garantis, si vous et moi, nous nous attachons déjà à tout faire pour pratiquer le petit peu qu'on connaît, on n'aurait pas le temps de s'ennuyer. On n'aurait pas le temps de s'ennuyer. L'exemple, le fils aîné, son problème, c'est qu'il ne se voyait pas en tant que fils, il se voyait comme serviteur. Ma question pour toi, te vois-tu réellement en tant que fils ou fille de Dieu ce matin? Te vois-tu réellement, connais-tu vraiment ton identité en Christ? Cette vérité-là, par exemple. 2 Timothée 3,7 nous dit « Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. » Cela parle ici de femmes qui, à l'époque, là où l'apôtre Paul écrit, elles veulent connaître plus, mais elles n'arrivent jamais réellement à connaître la vérité. Et le but, on doit connaître la vérité, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais la vérité, ce n'est pas uniquement la loi. La vérité, c'est surtout l'amour. Cela signifie que lorsqu'on connaît la vérité, on découvre une plus grande mesure du Dieu qui nous aime, et cet amour nous libère de toute frustration, de toute anxiété, de tout manque de paix, parce que tu découvres l'amour du Père à ton égard et tu te sens réellement un fils. Et tu comprends que tu n'as pas besoin de performer pour devenir un fils, mais par la connaissance et la foi en la vérité de qui tu es devenu grâce à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, en sa mort et en sa résurrection, te réjouis le cœur et affermis ton identité. Parce que la croix, la résurrection est la vérité qui nous révèle l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et du coup, tu œuvres non pas pour performer, mais tu œuvres parce que tu te sens aimé. Amen. Et nous devons réaliser cela. Ici, l'apôtre Paul dit dans ce verset, elles vont chercher des nouveautés, toujours un nouveau message, toujours une nouvelle révélation, mais sans jamais arriver à la connaissance de la vérité qui nous établit, qui nous fortifie, qui nous rend solides en Jésus-Christ. C'est comme si, imagine, la Bible dit que la parole est comme une nourriture. C'est comme si on se nourrissait tous les jours, et à chaque fois qu'on se nourrit, on a toujours faim. Jamais le ventre est plein. On mange, on dit purée, j'ai faim, je suis sans force. Tu manges et tu as du mal à tenir debout, faire un peu de sport parce qu'il te manque d'énergie. Ça parle de ça. La connaissance de la vérité signifie que lorsqu'on mange réellement la vérité et qu'on l'intègre à notre système, à notre identité, cette vérité-là nous donne la force à notre âme, par son esprit, de nous permettre de traverser les difficultés, de nous permettre de triompher de la frustration, par exemple. Parce qu'on réalise qu'il nous aime. La pratique de la parole, écoute bien ceci, la pratique de la parole de foi que tu entends, c'est le processus qui te fortifie dans ton identité. Pratiquer, c'est s'enraciner dans son identité en Christ. Celui qui met en pratique la parole, il connaît qui il est, il n'oublie pas qui il est. Pourquoi il n'oublie pas qui il est? Parce qu'il sait ce qu'il est. Ne provient pas de la pratique de ce qu'il fait, mais de ce que Jésus a pratiqué pour lui à la croix. C'est pour ça qu'il pratique, à partir de la révélation de qui il est en Jésus-Christ. Il pratique à partir de la foi. Parce que la foi sans les œuvres est morte. On peut œuvrer sans la foi, mais on ne peut pas avoir la foi et ne pas œuvrer. C'est important de comprendre ça. Si on a la foi, on œuvre. Et tu es un enfant de Dieu. Pratique la parole déjà que tu connais. Lorsqu'on pratique la parole de Dieu, la parole a cette puissance de chasser les ténèbres de nos vies. Parce que la parole est la lumière. Apprendre à pratiquer la parole, c'est apprendre à mieux le connaître, pour mieux se connaître. Pratiquer la parole, c'est découvrir ô combien Dieu nous aime. C'est pouvoir se réjouir parce que tu n'es pas frustré que ton frère est élevé ou que ton père fait une fête pour ton frère, parce que tu sais que toi aussi tu es un fils et que tout t'appartient. Donc tu es solide dans ton identité. Tu ne doutes pas de l'amour du Père à ton sujet, parce que tu penses que le Père aime l'autre plus que toi, parce que toi tu performes en faisant des œuvres, mais que lui qui a l'impression, qui te donne l'impression de rien faire, est plus honoré que toi. Alors tu commences à vaciller dans ton identité et tu te dis, mais pourquoi moi qui sers, je ne reçois pas la manifestation que lui a? Tu n'es plus victime de ça. Parce que ton identité est établie dans la foi en Jésus. Et tu comprends que tu es un fils. Et quand ton père fait une fête pour ton frère ou ta sœur, tu te réjouis. Tu vas te préparer, tu dis « Let's go to the party ». En créole, allons défouler. Allons faire la fête. Et tu te réjouis. Parce que tu ne vacilles pas et tu ne doutes pas de l'amour du Père à ton égard. Amen. Ton anniversaire va venir aussi. Si ton papa a fait un anniversaire pour ta soeur, ton frère, c'est son anniversaire, c'est-à-dire le temps viendra pour toi aussi. Est-ce que tu crois? Pratiquer la parole, ce n'est pas uniquement pratiquer la loi, c'est surtout pratiquer l'amour. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Celui qui aime les autres accomplit la loi. Pratiquer la parole ne se résume pas à pratiquer la loi. Pratiquer la parole, c'est surtout pratiquer l'amour. Parce que celui qui aime est celui qui accomplit la loi. Et le mot accomplir ici, c'est le mot, c'est dans le même sens que le mot construire, que le mot pratiquer. C'est le mot amener à la réalisation. Ça parle de réaliser, de construire quelque chose. Celui qui pratique construit son identité dans le Seigneur. Il découvre, il expérimente la parole de Dieu qui le rend fort. Parce que plus tu aimes, plus tu es fort. Plus tu aimes Dieu, plus tu aimes les autres. Quand Jésus dit, celui qui préfère son père, sa mère, sa sœur, tout ça avant moi n'est pas digne de moi. C'est qu'il n'est pas en train de nous dire, ne les aime plus du tout. Parce qu'à un moment donné, il dit, honore ton père et ta mère. Il veut nous faire comprendre que plus on l'aime lui, plus on sera capable d'aimer les autres en retour de manière supérieure. Plus on sera capable même d'aimer nos ennemis, si on l'aime lui. Parce qu'il nous a aimé le premier, alors nous sommes capables aussi d'aimer. Amen. Et le mot accomplir ici, ça parle de réaliser. Ça parle de amener à la réalisation, de construire. Et il y a un autre passage où Jésus parle de construire par la pratique de la parole. Dans Luc 6. Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond, il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée, il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Ici Jésus parle, montre l'exemple entre celui qui pratique et celui qui ne pratique pas. Les deux entendent la parole, mais un seul pratique. Dans cette parabole que Jésus donne, il ne parle pas de la beauté de la maison. Il ne parle pas du design de la maison. Il veut mettre l'accent sur les fondations. Il veut mettre l'accent sur le roc. Il veut nous montrer que, oui, construire demande de l'effort. C'est différent de regarder une graine que tu plantes par terre et qu'elle pousse, tu plantes et que ça pousse. Et de construire, construire une maison demande des efforts. S'il y a des personnes qui travaillent dans le bâtiment ici, vous comprenez de quoi je parle. Quand j'étais adolescent, j'aidais souvent mon père à faire des murs, etc., murs moellons et tout ça. Les gars, tourne-béton, c'est physique. Et sans compter construire une maison, il faut un design, il faut un plan, c'est une règle de l'art, ça demande des efforts de construire. Ça demande de l'effort pour pratiquer lorsque tu crois. Mais ici, l'effort que Jésus, l'effort sur lequel Jésus veut mettre l'accent, c'est les fondations. Il dit, il faut creuser. Creuser. Celui qui a de solides fondations, c'est celui qui creuse. Il creuse. Dans la parabole, la maison qui s'écroule, les deux subissent la tempête. Celle qui a de solides fondations, comme celle qui n'en a pas. Les tempêtes viennent pour tout le monde. Regarde ton voisin et dis-lui, les tempêtes viennent pour tout le monde. Tu n'es pas seul. La différence, c'est les fondations. La maison qui s'est écroulée, le problème n'était pas qu'il n'y avait pas de roc. Le problème, c'est que la personne n'a pas creusé. C'est ça le problème. Elle a bâti directement sur la terre meuble. Mais tous ceux qui travaillent dans le bâtiment savent que lorsque tu veux construire une maison, il faut d'abord vérifier si la terre est dure ou pas. Si la terre est meuble, il faut creuser pour mettre des fondations solides afin de bâtir dessus. Plus tu montes haut, plus il faut creuser bas. Lorsqu'on creuse, ça demande un effort, mais ça nous construit. Ça parle lorsque tu pratiques, tu creuses. 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 Et tu vas chercher quoi? Le roc, il est où en toi? Qui est-il? Jésus. Il est le rocher. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a du roc en toi. Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Cela signifie qu'il est possible pour chacun d'entre nous ici de pratiquer en creusant jusqu'à ce qu'on trouve le roc qu'est Jésus-Christ en nous. Il est le rocher, nous dit la parole de Dieu, sur lequel on s'appuie. La terre frêle, c'est la chair. C'est les frustrations, les mauvaises réactions qui arrivent à nous tous. Mais si on creuse et qu'on s'efforce de pratiquer la parole de Dieu, on va finir par toucher le roc. Et quand tu touches le roc, l'eau jaillit. L'eau de la vie jaillit. C'est le roc qui était dans le désert avec le peuple. Lorsque Moïse a frappé le roc pour la première fois, l'eau est sortie. Il y a de la puissance dans de solides fondations. Avoir de solides fondations parle de pratiquer la parole de Dieu. C'est un processus où on apprend à creuser, à pratiquer. Et cette fondation-là nous permet de, dans le temps, de grandir dans l'onction, de grandir dans la sagesse, de grandir dans le discernement, de grandir dans l'autorité, de grandir dans l'assurance, de grandir dans notre intimité. Le deuxième problème aujourd'hui, qui entraîne beaucoup de frustration après la connaissance sans l'application, c'est l'impatience et la précipitation. La précipitation entraîne beaucoup de frustration. On est souvent frustré par l'impatience. Construire demande du temps. Et on vit dans une société micro-ondes. Tout est rapide. Et on voudrait donner notre vie au Seigneur aujourd'hui et devenir un grand homme de Dieu solide demain matin quand on se réveille. Malheureusement, j'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a un processus pour entrer dans la destinée, pour t'affermir dans ton identité en tant que fils de Dieu. Et Dieu ne va pas se précipiter. Construire demande de la patience parce qu'il faut du temps. Et Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Franchement, j'aurais aimé que ce n'était pas écrit ça, mais c'est écrit. L'amour est patient. Et j'aimerais rapidement nous faire comprendre que la patience, en réalité, c'est quelque chose qui peut réellement être utilisé à notre avantage. Comment faire pour être plus patient? Comment faire pour réellement attendre? On a vu que l'amour est patient. Cela signifie plus on pratique et plus on connaît l'amour, plus on devient patient. Mais pourquoi Dieu n'est pas pressé? Pourquoi Dieu qui est éternel, si 1000 ans égale pour lui un jour égale 1000 ans, et en fin de compte, il n'a pas de problème de temps, et qui serait capable de nous solidifier en un jour comme en 30 ans, pourquoi 30 ans? Pourquoi 20 ans? Pourquoi 10 ans? Écoutez ce passage en 2 Pierre 3:9. Pourquoi Dieu est patient envers nous? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La patience de Dieu est une, en réalité, conséquence de son amour et de sa bonté envers nous. Parce qu'il patiente juste pour que personne ne périsse, mais que tous changent de façon de penser. La repentance, c'est penser autrement. Donc Dieu patiente pour nous-mêmes. Dieu patiente dans notre intérêt. Pour que nous puissions penser autrement. Alors j'aimerais t'aider à penser autrement la patience ce matin. Si tu as reçu des promesses de Dieu et tu es frustré qu'elles ne sont pas arrivées, et tu te dis, dans combien de temps, Seigneur? Dans combien de temps mon couple va être extraordinaire? Mes finances vont sortir du rouge? J'aimerais te dire ceci. Apprends à puiser la patience pour le jour d'aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Pas besoin de demander à Dieu la patience pour 20 ans. Déjà, quand tu te lèves le matin, prie. Et dis au Seigneur, donne-moi la patience pour aujourd'hui. Si tu as triomphé pour aujourd'hui, c'est une victoire. Et demain, on recommence. Le temps a passé comme ça. Et tu seras moins frustré comme ça. Chaque jour suffit sa peine. Comment apprenons-nous à patienter? Lorsqu'on apprend à fixer nos regards sur Dieu plus que sur les circonstances chaque jour. Lorsqu'on apprend à dire, ok Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, j'aurais aimé ci, j'aurais aimé ça, mais c'est toi que je veux connaître. C'est toi que je veux. Alors on apprend à être plus patient. Écoute bien ceci. Par sa bonté, Dieu utilise le temps qui passe pour nous amener à penser autrement. C'est dans ce temps de patience que Dieu va se révéler à nous au travers des circonstances pour qu'on puisse faire son expérience, pour qu'on puisse l'expérimenter de manière personnelle. Et qu'un moment avec Dieu nous fortifie et nous change. C'est ce que Dieu attend. Vous savez, la patience, c'est comme si tu as un compte en banque, tu as des sous dessus. Et plus tu attends, plus ces sous te rapportent des intérêts. La patience joue en ta faveur et en ma faveur si on apprend à la percevoir comme Dieu la perçoit. Lorsque Dieu va dire « Maintenant, c'est le temps », tu vas partir avec plus de puissance, tu vas partir avec plus d'autorité, tu vas partir avec plus de sagesse, tu vas partir avec plus de force dans l'esprit, tu vas partir avec plus de maturité, tu vas partir avec plus d'amour. Tu vas partir en étant beaucoup plus dangereux pour l'ennemi. La patience nous apprend à mettre nos circonstances entre les mains de Dieu. Apprendre à être patient, c'est apprendre à lâcher le contrôle pour le laisser le contrôle. Apprendre à être patient, ce n'est pas apprendre à se maîtriser, mais c'est le laisser nous maîtriser. Parce que parfois on peut penser que la patience, je vais me maîtriser. Non, la patience, ce n'est pas se maîtriser pour dire « Ouh, je me maîtrise parce que j'ai besoin de ces choses, mais elles n'arrivent pas. » Non, la patience, c'est apprendre à s'oublier. En se rappelant de ce qu'il a fait. C'est oublier nos œuvres pour être focalisé toujours sur son œuvre. Donc le troisième point, pourquoi on est souvent frustré, c'est le manque d'abandon. S'abandonner, c'est s'oublier. C'est apprendre à renoncer, à se séparer de ses propres points de vue. C'est apprendre à se défaire d'une mauvaise manière de se conduire pour le laisser nous conduire. S'oublier, c'est se défaire, c'est s'éloigner de ses propres points de vue. qui emmène une insatisfaction. Et dire comme David, je suis fatigué de la cave. David commençait souvent les psaumes frustrés. On lit les psaumes. Frustré, il est dans la cave, il fuit. Tu as dit que je suis le prochain roi. Regarde où je suis. Dans la fée noire. Et il est frustré, il commence souvent les psaumes en disant « Ouais, qu'est-ce que t'as, Seigneur, où tu es, pourquoi ?» Et plus il prie, plus il devient moins frustré, plus la paix envahit son cœur. Et à la fin, il dit « Tu es mon refuge, mon rocher, ma forteresse, avec toi, je suis victorieux, tu es glorieux. Alléluia !» Qu'est-ce que Dieu était en train de faire ? Dieu était en train de faire ressortir le roi en lui avant de l'établir roi même. Dieu était en train d'amener David à penser autrement. Pour que le temps joue en sa faveur. Et que lorsqu'il sera roi à ce moment-là, il y aura tellement d'intérêt sur son compte qu'il sera un roi extraordinaire. Et ça a été le cas. Le manque d'abandon peut nous faire aussi défaut et engendrer beaucoup de frustration. J'ai terminé sur le passage de l'apôtre Paul dans Philippiens 1, à partir du verset 15. L'apôtre Paul était un homme qui savait s'oublier. Et là, on va le voir dans ce passage. Il a dit aussi, oubliant ce qui est derrière moi, regardant ce qui est devant, je cours dans le but de remporter le prix. Il dit, mon désir, c'est pas de faire des œuvres extraordinaires, ça c'est la conséquence de mon désir. Mon désir, c'est de le connaître. Si je le connais, je ferai des œuvres extraordinaires. Philippiens 1, 15. Certains annoncent le Christ avec un bon cœur, ils le font par amour. Ils savent que je suis en prison pour défendre la bonne nouvelle. Mais d'autres le font par jalousie. Ils veulent s'opposer à moi et ils annoncent le Christ pour passer les premiers. Leurs raisons sont malhonnêtes et de cette façon, ils pensent rendre plus dure ma vie en prison. Leurs intentions peuvent être droites ou tordues, peu importe. En tout cas, ils annoncent tous le Christ. C'est pourquoi je suis dans la joie et je me réjouirai encore. L'apôtre Paul dit, vous savez, je suis en prison et j'ai donné ma vie pour la cause de Christ et j'ai implanté beaucoup d'églises, j'ai réellement influencé plusieurs nations. Je suis aujourd'hui en prison et parmi les hommes qui sortent de ces églises que j'ai pu implanter, certains se retournent contre moi et me critiquent. Et vraiment, ils annoncent Christ en me dénigrant. Et au départ, quelque part, ça m'a fait mal. Et je me dis, Seigneur, pourquoi moi, en fin de compte, je t'ai servi, etc. Mais en réalité, il ne dit pas ça. Il a compris une chose. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas à propos de moi. Donc même si moi, il me dénigre, toi, tu es annoncé. C'est à propos de toi. Alors qu'ils le font avec des bonnes intentions pour me nuire à moi, à ma vie, je m'en fiche. Parce que c'est pas à propos de moi. C'est à propos de toi. Que ton collègue, ton frère, ton voisin soit béni et pas toi. Hey, tu es quand même un fils. Patiente et abandonne-toi parce que c'est à propos de lui, à propos de Jésus et de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. C'est pas à propos de toi et moi, c'est à propos de lui. Et si on arrive à vivre, frères et sœurs, bien-aimés, chaque jour en disant Seigneur, aujourd'hui, apprends-moi, au lieu de fixer mes regards sur les circonstances qui me paraissent injustes, apprends-moi à me rappeler que ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de toi. Apprends-moi à m'oublier. Seigneur, ce n'est pas à propos de ce que je peux faire pour toi à l'extérieur qui compte avant tout. C'est à propos de toi à l'intérieur qui compte avant tout. C'est toi qui comptes, Seigneur. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et mon prochain comme moi-même. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que c'est à propos de lui? Amen. Alors, est-ce qu'on peut fermer les yeux un moment, s'il vous plaît?